Bonjour, pour notre dernier rendez-vous de la saison, je vous propose un numéro de Lab Oratoire spécial agriculture urbaine qui pour une fois prendra la forme d'un reportage. Dans un premier temps, nous irons au Solilab à la rencontre d'Anthony Maillard et d'Antoine Rémy Zéphir de l'association Beautiful. On y découvrira la Farm Lab, puis nous engagerons nos pas pour rejoindre la rue Paul Nizan où nous attend Loïc Chaussin. Loïc nous présentera La Nizannerie, un projet participatif d'apprivoisement de l'espace public. Reportage réalisé avec la complicité de Valentin Beauvalet.
On est au Solilab et on rencontre l'asso Beautiful, donc, qui est une asso, si je ne me trompe pas, d'agriculture urbaine et d'expérimentation de culture en ville, quoi.
Oui, alors c'est effectivement, on peut voir ça de façon plus large puisque nous, on a vocation à promouvoir et développer des projets d'agriculture urbaine. Alors, l'agriculture urbaine, c'est derrière cette définition, il y a pas mal d'activités. On peut être dans l'éducation à l'environnement, on peut être dans la sensibilisation, on peut être dans l'aménagement du paysage aussi, on peut être même jusqu'à la production. Dans l'agriculture urbaine, il y a d'abord le mot agriculture. Et voilà, on a une notion un peu rurale jusqu'alors de l'agriculture avec des hectares et des hectares de champs, que ce soit céréalier, que ce soit dans l'élevage. Bon, là, on est sur des échelles beaucoup plus micro. Et sur ces échelles micro, on a des activités qui sont plus innovantes, notamment hors sol. On va parler de l'aquaponie, on va parler de culture de micro-algues. Voilà, on peut imaginer tout un tas d'activités. L'agriculture urbaine n'est pas neuve. Hein. Antoine va en parler. Les ruches sur Paris, ça se fait déjà depuis de nombreuses années. C'est un des exemples de l'agriculture urbaine.
C'est vrai que mon dada, c'est l'apiculture, étant donné que je suis apiculteur. Et c'est vrai que l'agriculture urbaine, bah, ça, c'est multifacette. C'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi ça, je reprécise, au sein de Beautiful, qui est intéressant, c'est qu'il y a des compétences vraiment différentes autour de l'aquaponie, de la spiruline et de l'apiculture pour ma partie. Et bah, c'est ce qui fait un peu la richesse de l'asso. Et donc effectivement, l'apiculture en ville, bah, ça fait déjà quelques années que ça existe, notamment sur Paris. On entend de plus en plus parler des ruches qui sont installées sur les toits et les espaces verts. Et c'est relativement innovant. Alors ça l'est un petit peu moins aujourd'hui, parce que ça existe déjà sur Paris, mais ça n'existe pas encore énormément sur Nantes et ça reste à développer. Donc pourquoi pas au sein de Beautiful.
Là, on est au Solilab, vous avez installé une petite dizaine de micro-fermes, c'est comme ça qu'on dit ?
On va plutôt décrire ça comme des modules, puisque à un moment donné, on est tellement en micro-micro qu'on ne sait même plus si on peut appeler ça une ferme. Par contre, un laboratoire expérimental de l'agriculture urbaine avec ici et là des formes de modules qui peuvent avoir des dimensions assez différentes, mais on va se situer sur l'échelle du mètre carré, quoi. Là, on n'est même plus sur des hectares ou des milliers de mètres carrés, on est vraiment sur le mètre carré. Donc un module, par exemple, d'aquaponie installé sur une palette, puisque souvent, en hors-sol, on se sert justement du format palette, parce qu'on travaille aussi beaucoup sur le réemploi, sur la réutilisation et sur les ressources. La palette, c'est une ressource bois qui est très intéressante et qui est assez standard. Donc voilà, cette ressource standard au mètre carré, à l'échelle du mètre carré, peut nous permettre de faire des modules comme l'aquaponie, par exemple.
Et en même temps, on voit une productivité qui est assez énorme. C'est propre à ces installations-là ou c'est propre à l'espace-là du Solilab qui fonctionne particulièrement bien ou je me trompe ?
Alors déjà, il faudrait préciser que l'objectif du Farm Lab, parce que c'est comme ça qu'on l'a appelé ici au Solilab, c'est pour ça que je parlais aussi de cette notion de laboratoire, l'objectif n'est pas du tout la production. L'objectif, c'est plutôt la démonstration, l'expérimentation et aussi la sensibilisation, parce qu'on fait aussi des ateliers ici participatifs, notamment de construction de modules d'agriculture urbaine. Et c'est vrai que l'aquaponie, quand même, offre des capacités de production qui sont supérieures à une production de pleine terre ou même en hors-sol, puisqu'en fait, il y a un écosystème qui se crée autour de l'élevage de poissons. Donc, hein, on peut élever des poissons un petit peu comme dans un aquarium. Hein, donc, il y a un certain nombre de poissons qui vont vivre dans ce bassin, toujours en hors-sol, bien sûr. Et par leur activité, avec les déjections qu'ils vont émettre, il y aura tout un écosystème qui va se recréer. Donc, il y a bien sûr une pompe qui vient récupérer l'eau des poissons et qui va l'installer dans le lit de culture. Et en fait, il y a un système en circuit continu où l'eau est recyclée constamment dans le système. y a cette dimension de l'économie circulaire dans le projet. Pourquoi ? Parce que la base du projet, c'était de récupérer du compost, en tout cas de valoriser des biodéchets, et issus de ce compost, trouver une utilisation, en tout cas une issue. Et c'est vrai que l'agriculture urbaine, c'est une issue très intéressante à l'utilisation du compost, issu du biodéchet. Après, on peut méthaniser le biodéchet, on peut en faire beaucoup de choses, mais on peut surtout le transformer en amendement. Donc que cet amendement soit utilisé près du lieu où il a été, entre guillemets, consommé, ça nous paraissait tout à fait pertinent. C'est pour ça qu'on parle d'économie circulaire autour des biodéchets et de l'alimentation, mais aussi autour des matériaux, des différentes ressources. Donc je l'ai dit tout à l'heure, le bois, ça peut être le plastique, ça peut être justement des modules IBC comme on voit ici, des cuves en plastique, voilà. Enfin, il y a toute une série de matériaux qui peuvent être réutilisés et qui peuvent nous permettre justement de sensibiliser à la réutilisation de déchets ou en tout cas de matériaux qui sont issus à l'incinération. Donc c'est une autre manière de concevoir justement l'approche territoriale de la gestion des déchets.
Est-ce qu'il y a une part aussi de recherche d'installations qui seraient susceptibles d'être brevetées ?
Non, il n'y a pas cette recherche vraiment de designer quelque chose. En tout cas, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'était plutôt de vérifier que ce qu'on avait pu voir de ce qui se pratique, par exemple en Amérique du Nord, au Québec ou en Asie notamment, en matière de culture hors sol, voir si effectivement ça pouvait fonctionner ici. Après, on l'a fait à partir de palettes, on l'a fait à partir de cuves, mais ça, on l'a déjà vu, on s'est inspiré, nous, de ce qui se fait ailleurs. Donc, on ne cherche pas forcément à inventer, à innover sur le design de ce type de culture. Par contre, voilà, de démontrer que ça fonctionne, d'expérimenter sur des échelles différentes, avec des matériaux différents, oui, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à faire depuis qu'on est implanté au Solilab.
La définition du hors-sol.
Tout ce qui est culture hors-sol, c'est assez large, mais c'est tous les types de cultures qui peuvent se faire sur un substrat différent d'un sol vivant. Voilà. C'est pas pour ça que le substrat n'est pas vivant, parce que... À quel moment est-ce qu'on peut dire qu'un substrat est vivant ? Ce sont des micro-organismes, des bactéries, des nutriments, même des vers de terre. Nous, on peut très bien ajouter des vers de terre dans un module aquaponie. Ce qu'on désigne comme hors-sol, c'est effectivement une technique où les racines vont principalement être immergées dans un substrat liquide. Voilà. Alors là, en aquaponie, on les immerge dans des billes d'argile. Donc en fait, elles sont simplement maintenues dans les billes d'argile. En général, c'est un substrat inerte, mais l'idée, c'est surtout que les racines soient en contact avec un milieu de culture, donc là, liquide. En l'occurrence, là, en aquaponie, c'est l'eau de culture des poissons, l'eau d'élevage des poissons. Et ce milieu, du coup, est chargé en nutriments, du fait justement de la vie des poissons. Donc on est bien en présence d'un substrat liquide, mais qui est maintenu par un élément inerte, donc soit effectivement du plastique, soit ça peut être justement du liège aussi, on l'a vu, ça peut être donc des billes d'argile, ça peut être de la perlite, voilà. Il y a tout un tas ou même des graviers, il y a tout un tas de substrats inertes qui servent juste à maintenir le collet en fait de la plante, mais les plantes sont immergées dans le milieu de culture.
On a bien compris l'enjeu de l'association Beautiful, mais en même temps, est-ce que c'est le même enjeu quand on parle de l'agriculture urbaine ? Et pour préparer l'émission, j'ai trouvé pas mal de chiffres, et c'est pas du tout des chiffres qui vont, je trouve, dans le même sens que votre association. On est vraiment sur, en termes de rentabilité, enfin pas rentabilité, mais productivité. À l'échelle d'une ville, être capable de produire pour tant de personnes, et je peux citer beaucoup de chiffres que j'ai marqués. Par exemple, on voit qu'à Paris, on vise d'avoir 33 hectares d'agriculture urbaine d'ici 2020, qu'à Montréal, il y a une ferme sur un toit qui est capable de nourrir 2000 personnes, c'est la serre urbaine LUFA. On voit qu'à Détroit, donc ville apparemment capitale dans ce type d'agriculture, on compte 1500 fermes. On est vraiment dans une démarche de nourrir les gens et dans une transition de la société actuelle. Pour vous, quel est l'enjeu autour de l'agriculture urbaine ?
Alors effectivement, les enjeux autour de l'agriculture urbaine sont aussi multiples. On peut déjà définir sur l'enjeu alimentaire. en premier lieu, puisqu'effectivement le but c'est quand même d'accéder à une alimentation locale. Hein. On sait bien que pour accéder à une certaine résilience, dépendre le moins possible des énergies fossiles, bien l'idée c'est de produire au plus près du consommateur. Évidemment la problématique qu'on a en zone urbaine c'est qu'on a peu de place, on a peu d'accès au foncier, donc ça nécessite de mettre en place des systèmes innovants de culture, notamment hors sol, ou en tout cas des systèmes de synergie, donc on parle beaucoup aussi de permaculture. L'inconvénient dès qu'on va faire du hors sol, c'est que tout de suite on a aussi une dépense d'énergie. Donc là, il y a des travaux qui sont menés aussi, notamment sur Paris, sur des substrats adaptés, sur des énergies renouvelables, sur justement le fait de coupler des techniques justement de smart grid aussi. Donc voilà, il y a le numérique croisé avec justement l'innovation technique, l'agronomie. Voilà, donc on est sur un secteur qui va être de plus en plus transdisciplinaire, puisque voilà, ça nécessite pas mal de compétences et sociétales, et agronomiques, et scientifiques, pour accéder à une alimentation locale et résiliente. Après, voilà, il y a un curseur en fait qui va se placer entre la pédagogie, la sensibilisation et la production pure. C'est vrai que si on est sur un projet qui est purement productif et assez peu environnemental, social, on risque d'avoir des projets qui sont à impact carbone assez négatif. Alors qu'en revanche, si on est sur des projets beaucoup plus participatifs, beaucoup plus coopératifs, associatifs, sur lesquels nous, on cherche justement à tendre, il y a de fortes chances qu'on soit sur des projets qui aient un impact carbone beaucoup moins important. Maintenant, voilà, il va falloir trouver la bonne échelle pour que le projet soit viable économiquement, mais qu'il ne soit pas non plus un gouffre en termes de consommation d'énergie. Quoi.
Donc l'association Beautiful s'inscrit dans une certaine démarche d'agriculture urbaine, mais ne cautionne pas tout ce qui se fait en termes d'agriculture urbaine et tous les projets à l'échelle d'une ville qui sont lancés actuellement partout dans le monde.
Oui, on a notamment des exemples au Japon d'immeubles entièrement consacrés à l'agriculture urbaine. Donc là, ce sont des plantes qui ne voient jamais la lumière du jour. Et là, la problématique, c'est qu'on est sur justement des consommations d'énergie qui sont très très importantes et sur des projets qui ne sont pas viables économiquement. Donc il y a fort à parier aussi qu'ils ne le soient pas environnementalement. Après, eux ont des contraintes aussi alimentaires qui sont beaucoup plus importantes, puisqu'il faut qu'ils nourrissent aussi leur population. Nous, voilà, on veut vraiment se situer justement en termes de valeur sur une agriculture urbaine innovante, donc hors sol, puisque forcément, on est sur des contraintes foncières qui sont importantes. On n'exclut pas évidemment d'intégrer aussi des fermes urbaines maraîchères classiques, comme notamment sur la zone d'aménagement de d'Oulongoar, où là, il y a des projets donc de fermes urbaines qui vont voir le jour dans les années à venir. Mais effectivement, pour l'instant, force est de constater que le hors-sol, c'est une technique à explorer. Tout est question voilà, de savoir comment on va maîtriser justement les ressources, l'énergie et à quelle échelle on va pouvoir viabiliser ce type de culture sans tomber justement dans une consommation excessive d'énergie notamment.
Votre financement, ce n'est pas la vente des produits récoltés.
Pour l'instant, le modèle économique, nous, on est en train de l'explorer, on est en train de le modéliser. Il était plutôt jusqu'alors basé sur la pédagogie, sur la sensibilisation et sur la démonstration, puisque justement on cherchait nous-mêmes à monter en compétences aussi. Forcément, on est aussi appelé à demander justement des financements un peu plus orientés sur la recherche, mais très rapidement, on va justement réfléchir à notamment des variétés potagères, que ce soit aussi des plantes aromatiques, qu'on pourrait vendre aussi aux restaurateurs. Donc là, ça pourrait être un modèle économique intéressant de proposer justement un partenariat avec des restaurateurs locaux qui seraient à la recherche notamment de plantes aromatiques, de salades ou de légumes fruits qui sont relativement simples à cultiver en aquaponie. Et là, du coup, ça serait intéressant d'imaginer une partie de notre modèle économique basée sur la production, même sur une échelle relativement faible, puisque l'aquaponie, encore une fois, peut offrir entre 4 et 6 fois plus de rendement au mètre carré que la culture de pleine terre. Donc là, justement, on a un modèle qui serait intéressant sur cette partie-là. Après, voilà, ça nécessite justement de pouvoir accéder à des terrains beaucoup plus importants, même si on est en hors-sol.
Anthony Maillard et Antoine Rémy Zéphir de l'association Beautiful sont les invités de Lab Oratoire.
Par rapport au partenariat, pour revenir sur ce que tu venais de dire, on voit que vous êtes soutenu par l'Université de Nantes, donc là on comprend bien le côté recherche. Vous êtes aussi soutenu par Nantes et Nantes Métropole. Le projet que vous présentez à Nantes Métropole, c'est un projet plutôt d'éducation à la culture urbaine, ou c'est vraiment un projet sur le développement et la transition de la ville?
Alors notre soutien par rapport à Nantes Métropole, il se situe par rapport en fait à l'appel à projet économie sociale et solidaire, ce qu'on appelle l'ancien fonds de soutien. Donc là, on s'inscrit, alors c'est un accompagnement sur 3 ans. Donc justement, on est identifié hein, comme un projet expérimental, hein, du coup, par rapport à l'agriculture urbaine. Et c'est vrai que du coup, on va être à cheval sur cette notion de transition énergétique, transition justement sociétale. Évidemment, on est beaucoup sur l'alimentaire, sur l'alimentation. Mais voilà, la métropole comprend aussi de plus en plus qu'il y a des enjeux environnementaux à inscrire un programme alimentaire territorial. C'est comme ça qu'est menée justement cette recherche entre justement les acteurs de la production, les acteurs de la distribution, les acteurs aussi du transport. Voilà, en fait, il y a tout ce projet qui est en train de se réfléchir à l'horizon 2017. Il y a aussi la perspective du débat sur la transition énergétique qui va commencer au mois de septembre. Voilà, donc on sent qu'il y a vraiment une réflexion qui est en train de se faire. Il y a une certaine de maturité du territoire à réfléchir sur ces notions de production alimentaire, ces notions de distribution, et que forcément il va falloir intégrer d'autres acteurs que les maraîchers classiques, les zones périurbaines, puisque l'idée aussi de l'agriculture urbaine, c'est pas du tout de rentrer en concurrence avec l'agriculture traditionnelle, mais c'est plutôt de venir en complémentarité, puisque l'agriculture urbaine aussi fait office de vitrine pour justement notamment mettre en valeur des produits qui peuvent être fabriqués ou en tout cas transformés autour de l'agglomération notamment. Mais voilà, qu'on s'inscrive nous plus sur une sensibilisation, sur des méthodes innovantes qui justement émergent dû à la contrainte, parce que ça c'est du coup la contrainte du peu de place fait émerger justement des techniques innovantes comme l'aquaponie notamment, et du coup ce qui est cette relation qui est justement cette relation mutuelle entre l'agriculture rurale, périurbaine et urbaine, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, puisque ça ne fait que valoriser l'agriculture locale, même si on est sur des échelles bien sûr différentes, auprès du consommateur.
Un petit mot sur votre adhésion à Beautiful.
L'idée pour moi en tant qu'apiculteur d'adhérer à Beautiful, c'était de participer à un projet commun, collectif, et puis c'était mettre mon savoir-faire d'apiculteur, permettre à chacun de pouvoir bénéficier, pourquoi pas, d'ateliers pédagogiques et collectifs, de formation, de sensibilisation, d'initiation à l'apiculture. C'était avant tout ça, parce que l'apiculture urbaine, ça existe. Il y a le côté effectivement production de miel, notamment, tout comme on peut produire des plantes grâce au bac. Mais l'idée là, c'était plus d'intégrer Beautiful afin de développer des ateliers qui permettent à chacun de sensibiliser et pourquoi pas de s'initier et de se mettre à l'apiculture, parce que être apiculteur amateur, notamment d'avoir 2-3 ruches, c'est pas juste mettre des ruches dans son jardin et les regarder, mais c'est un vrai savoir-faire. Ça prend du temps, ça demande des compétences, et les compétences ça s'acquiert, et voilà, et ça va pouvoir s'acquérir au sein de l'association dès qu'on aura l'opportunité d'avoir un petit peu plus de foncier et de pouvoir implanter quelques ruches pour développer ces ateliers.
Un miel bitumé?
Alors un miel bitumé, c'est une très bonne question. Il faut savoir que les plantes se débrouillent très bien en ville. Heureusement, en ville, il n'y a pas que du bitume. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'arbres. Donc quand on pense miel, on pense fleurs. Et quand on pense fleurs en ville, il faut penser aux arbres. Les arbres font des fleurs, notamment le tilleul. Fait beaucoup de fleurs qui sont très mellifères, donc qui produisent beaucoup de nectar. Le châtaignier également. Donc il faut vraiment penser que la ville, c'est aujourd'hui une super opportunité pour les abeilles de pouvoir produire du miel, notamment en plus parce que la ville est un lieu qui est sans pesticides, entre guillemets. On est loin des champs de monoculture qui sont extrêmement traités par tout ce qui est pesticides, et notamment les néonicotinoïdes qui déciment les colonies d'abeilles à la campagne.
nous allons visiter le Farm Lab qui est composé de...
Eh bien, il y a différents modules. Le premier qu'on a monté, c'est celui-ci, la palette potagère, donc qui est pour les auditeurs une palette verticale. En fait, très exactement, il y a deux palettes qui ont été fixées l'une à l'autre. À l'intérieur desquels on a installé un géotextile. Et en fait, ce géotextile permet de retenir le substrat, donc c'est un mélange de terreau et de compost, tout simplement. Donc c'est un géotextile qu'on a fixé, qu'on a graffé à l'intérieur des palettes. Et pour le coup, ça nous permet d'implanter hein, véritablement les plantes, ou même des graines, on aurait pu mettre des graines, à l'intérieur du géotextile. Donc on a juste donné un petit coup de cutter ou de ciseau dans les interstices, et on a implanté à l'intérieur soit des graines, soit des plants, et on a pu voir très rapidement donc les plantes se développer de part et d'autre de la palette.
Ce sont des salades qui ramènent leurs fraises.
Effectivement, des salades qui ramènent leurs fraises.
Expliquons.
On pourrait faire 10 000 jeux de mots comme ça, notamment avec le radis. Je sais que Disco Soup fait ça très très bien, notamment. On a mis des fraises, on a mis des salades pour le côté productif, le côté ornemental. Puis c'est toujours sympa, les fraises en général, ça met tout le monde d'accord. Puis encore une fois, ça attire les abeilles, hein. tout ce qui est fleurs, ça attire pas mal les insectes. On a eu un petit peu d'attaque sur les fèves, on a eu des pucerons sur les fèves. On aurait pu justement faire un petit traitement biologique à base de savon noir. On saura mieux l'année prochaine, hein. c'était un test. À la place, on a planté un peu de cornichons. Voilà, c'est pour l'aspect grimpant, puisqu'on a installé une structure en bambou de façon à ce que la plante puisse grimper tranquillement. Voilà, ça c'était le premier. Alors les deuxièmes qu'on a fait...
Mais juste là, il n'y a pas d'incompatibilité entre les plantes.
Si, il y a effectivement des plantes qu'il faut éviter de planter ensemble. Il y en a certaines qui sont au contraire qui s'invitent à s'associer, notamment les carottes et les poireaux, hein. Il y a 10 000 exemples comme ça. Mais c'est vrai que voilà, tout ça, ça s'apprend aussi. Hein, c'est un vrai savoir-faire qu'on a hérité ou qu'on a beaucoup oublié de nos anciens. Mais les cultures potagères, c'est vraiment une science, c'est un art. Et en hors-sol, évidemment, vu qu'on est sur des contraintes plus importantes, ça devient encore plus technique. Mais c'est là tout l'intérêt d'expérimenter.
C'est sur roulette ? Est-ce qu'on suit la marche du soleil ?
Le but, effectivement, déjà d'expérimenter, de faire ces modules, c'était déjà d'être sur un aspect mobile. Donc l'idée, c'était de pouvoir déplacer en fonction des besoins les modules. Bon, celui-ci, finalement, se révèle un petit peu lourd, donc on le déplace assez peu. Sauf au départ, quand il y avait des grosses chaleurs, on avait tendance à le tourner en fonction de l'orientation du soleil. Mais c'est vrai que voilà, c'est compliqué d'être à la fois suffisamment haut en termes de substrat pour accueillir la plante et de rester assez léger pour pouvoir bouger justement les modules.
Alors moi j'avais une question sur la durée de vie d'une installation comme ça, parce qu'on voit qu'il y a des fraisiers, on sait que les fraisiers ça dure quand même plusieurs saisons, enfin plusieurs années même, et là on voit qu'il y a des salades qui ont été coupées, est-ce qu'on peut les changer, est-ce qu'on peut en remettre d'autres, sachant que derrière il y a les racines de la première salade qui ont déjà pris peut-être ce qu'il y avait pour vivre, donc quelle est la durée de vie d'une installation comme ça ?
Là clairement on ne se destinait pas à la faire vivre plus d'une année, plus d'une saison, puisque, encore une fois, on était vraiment sur l'expérimentation. En revanche, on avait quand même prévu le coup en plantant ce qu'on appelle de la feuille de chêne, hein, de la laitue à couper. Et là, du coup, l'intérêt de cette variété, c'est qu'on peut couper feuille par feuille en fonction des besoins. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout obligé de couper la salade entière, ce qui lui permet de repartir au cœur de façon permanente, quoi. Donc là, on a une productivité qui va être beaucoup plus longue sur la saison. Après, effectivement, là, il aurait fallu mettre quasiment un écriteau devant le module en expliquant comment il faut couper la salade pour pouvoir la consommer par soi-même. Mais vous voyez que voilà, celles-ci ont été largement dégustées et elles continuent de pousser au cœur régulièrement, quoi.
Très bien, on peut continuer.
Alors celui-ci, c'est un wicking bed.
Pourquoi toujours en anglais ?
Pourquoi toujours en anglais ? Parce que si on fait en français, ça fait jardinière à réserve d'eau. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu plus sexy de le dire en anglais, mais voilà, en tout cas, c'est plus...
Ça pourrait être en chinois. Ouais.
Ça pourrait être en chinois, mais ça serait compliqué. En tout cas, c'était plus l'idée d'expliquer une technique et surtout expliquer l'intérêt, puisque le fait d'être en hors-sol, on a souvent des problématiques d'irrigation. La plante, il ne faut pas l'oublier, elle a besoin de soleil, mais elle a surtout besoin d'eau. Et l'idée du wicking bed, donc de la jardinière à réserve d'eau, c'est que la plante soit constamment irriguée en humidité, en tout cas par capillarité. Puisqu'en fait, il y a quelques dizaines de centimètres de réserve d'eau au fond. Et que le substrat, en fait, donc, qui est protégé par un géotextile, garde toujours son humidité grâce à la capillarité. Donc là, l'idée, c'est qu'il y a un tuyau en fait, qui vient en fait, remplir la réserve d'eau. Donc il suffit simplement de remplir la réserve et pendant une semaine, le bac va rester constamment, en tout cas humidifié, grâce à cette eau qui va être stagnante au fond du bac.
Il y a tomates et...
Tomates, là ce sont des piments d'Espelette, ici nous avons du melon et on a aussi des œillets d'Inde effectivement pour protéger notamment la tomate contre les nématodes.
Le poids du bac
Le poids du bac, on est sur une cinquantaine de kilos à peu près, hein. C'est vrai que c'est pas léger.
Il y a deux poignées.
Il faut des personnes aguerries à l'activité physique, on va dire. Mais voilà, l'idée, c'était de démontrer que peu importe le type de module et le matériau utilisé, on peut faire des choses hors sol, si possible avec une réserve d'eau pour la plante. Ça évite d'avoir à arroser trop régulièrement. Mais c'est vrai que si on se situe comme les deux wicking beds qui sont là-bas, c'est beaucoup plus compliqué à déplacer.
Le coût d'une installation, ça dépend, mais on ne se ruine pas trop.
Bah non, puisque principalement on fait de la récupération. Donc là on est sur des bacs de 200 litres en plastique. Donc je crois que c'est du polypropylène de mémoire. Et on a découpé en fait en deux ces bacs en plastique. Donc qu'on a récupéré, on ne les a pas payés. Le compost, c'est pareil, hein, on le récupère soi-même. Après le reste, hein, c'est surtout de la récupération. Alors là, on a acheté les plants pour que ce soit un peu rapide au niveau de la croissance. Mais sinon, tout est issu de la récupération.
Donc là, une petite déclinaison pour agriculteurs urbains souvent fatigué.
Bah oui, effectivement, le deal qu'on avait un petit peu avec le lieu ici, le Solilab, c'était de se dire, bon, planter c'est bien, vos jardinières c'est joli, mais si on peut en faire un élément double usage, ça serait encore mieux. Donc là, le double usage était tout trouvé, hein. On avait 4 palettes Europe, on avait besoin de s'asseoir parce que bah, clairement les gens ici viennent déjeuner le midi, hein. C'est toujours sympa au soleil de pique-niquer, et bah, nous on voulait quand même faire de ce banc une jardinière, donc eh bien, CQFD, on a... avec Antoine, ici même, modélisé, je dirais pas en 3D, mais on l'a fait un petit peu à l'expérimentation. On a fait tout ça en do it yourself, on a fait le banc, je sais pas, on lui a même pas donné de nom, mais le banc potager, on pourrait l'appeler comme ça tout simplement. Et donc avec 4 palettes découpées, poncées, vissées, et puis plantées. Voilà, donc on a ces 3-4 pieds de tomates, cet œillet d'Inde, cette ciboulette et même ce haricot qui grimpe autour de la tige donc de la tomate qui viennent ornementer ce magnifique banc potager du Solilab.
Des patates en route.
Des patates en route, ben oui, c'était le petit jeu de mots, puisqu'elles poussent dans des pneus. Alors, pourquoi faire pousser des pommes de terre dans des pneus ? Bah déjà, d'une, parce que ça les isole. Ça isole en fait les pieds des températures soit excessives, soit un petit peu trop basses. En tous les cas, l'idée, c'était de faire ce qu'on appelle des tours à pommes de terre. Puisque certaines variétés de pommes de terre, notamment la vitelotte, qui a une couleur très caractéristique, très, très violine, elle a pour capacité de grimper assez rapidement. Et donc, toujours en agriculture urbaine, comme on cherche la verticalité, on cherche le maximum de productivité au mètre carré, l'idée de la tour à pommes de terre, c'est de monter le plus possible, donc avec cet empilement de pneus, à l'intérieur desquels on va mettre le compost, et à l'intérieur duquel la tour en fait, va donner de plus en plus de pommes de terre en verticale.
Merci à Anthony Maillard et Antoine Rémy Zéphir de l'association Beautiful pour leur libre participation à ce reportage réalisé au Solilab en partenariat avec les Écosolis et avec la complicité de Valentin Beauvalet.